ça valait la peine, ça valait la peine d'attendre tout ce temps. Hein. Bien, donc, je vais vous parler de qu'est-ce que gouverner. Je vais essayer de le faire dans une durée raisonnable, pas plus d'une quarantaine de minutes. De manière à tourner un temps assez abondant pour les discussions. Pour ce qui est de vous parler de l'université de tous les savoirs, ou de l'université de tous les savoirs au lycée ou d'autres choses, ça viendra, je dirais, au moment de la discussion, si on n'oublie pas. Alors, je vais vous parler de qu'est-ce que gouverner. C'est une réflexion qui, pour moi, est une réflexion théorique, puisque je suis philosophe, entre autres spécialiste de la philosophie politique. Mais disons que je me suis beaucoup intéressé à une manière de gouverner qui est un peu différente, bizarre, c'est la violence. Mais ça ne sera pas vraiment mon sujet aujourd'hui. Et puis, il faut dire aussi, et ça c'est quand il a été question de Locke et de Hume, j'en ai été très heureux, c'est que je suis aussi quelqu'un de pratique, c'est-à-dire que j'ai une expérience, même limitée, du gouvernement, puisque j'ai dirigé l'école des Beaux-Arts, un grand établissement public énorme, avec beaucoup d'employés, beaucoup d'étudiants, et que j'avais la mission de la réformer. Quand on m'a engagé, on m'a dit, ce que m'avait dit le ministre Jacques Lang à l'époque, en 1989, il m'avait dit « changez-moi tout ça ». Et je lui avais répondu, mais monsieur le ministre, vous savez, les révolutions, ça fait des morts. Alors, et il m'avait dit, ne faites quand même pas trop de vagues. Voilà. J'ai eu pendant 7 ans l'expérience du pilotage, de pas du gouvernement, justement, mais du pilotage d'une grande institution et du pilotage aussi à un moment où il s'agissait de prendre des décisions importantes qui affectaient beaucoup de gens et qui n'étaient pas toujours bien reçues, même si à la fin, elles ont été assez bien reçues. Alors, je vais vous parler de qu'est-ce que gouverner, à la fois de ce double aspect, je dirais théorique, puisque je suis un théoricien, j'espère, et de l'aspect aussi pratique, c'est-à-dire derrière tout ce que je peux vous montrer, il y a aussi des expériences. Alors, commence tout bêtement hein, par l'étymologie. Gouverner, ça vient de gouvernare ou gouvernao, en grec. Et c'est savoir à gouverner un navire. C'est la question du gouvernail. Diriger une embarcation, c'est-à-dire l'amener à bon port, l'amener où on veut. C'est une comparaison qu'on trouve chez beaucoup de philosophes. Chez saint Thomas d'Aquin, c'est une définition du gouvernement. Il s'agit de mener le navire en bon état avec ses passagers et, si possible, à l'endroit où on voulait. Et si possible, là où on voulait, parce que quelquefois on n'arrive pas forcément là où on voulait, mais en principe on doit arriver. Gouverner, gouvernail, gouverne, tout ça c'est l'étymologie. Ça veut dire orienter quelque chose qui se déplace et qui se déplace par rapport à des éléments qui ne sont pas forcément toujours favorables. Ça c'est la notion de base du gouvernement. Le gouvernement, c'est jamais forcément une partie de plaisir, mais on doit avoir à prendre en compte des éléments et des événements, et bien sûr, et évidemment, aussi des personnes, puisqu'il y a un équipage, il y a des passagers, il y a des denrées à bord, et que tout ça doit, pour l'équipage, il doit obéir, pour les passagers, ils ne doivent pas se paniquer, et pour les denrées, il faut qu'elles arrivent sans être sans être dans un état totalement désastreux. Une expression qui revient très souvent en philosophie politique, jusque par exemple à l'époque contemporaine, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Hein, c'est le thème d'être embarqué, et tous dans le même bateau, jusqu'à l'époque contemporaine, qui est un livre du philosophe allemand Peter Sloterdijk, qui s'appelle dans le même bateau. Donc vous voyez que ces comparaisons ont la vie, est dure et très dure. Je vous ai pris une image d'un gouvernail d'une pierre sculptée représentant, ça peut être une pierre tombale, le tombeau d'un capitaine de navire avec le gouvernail, la partie qui plonge dans l'eau étant le safran et la partie d'orientation étant la barre. Voilà ce que c'est. Essentiellement au départ, c'est barrer. Et essayer de faire évoluer un navire dans une certaine direction en fonction de contraintes d'éléments. Alors, ça c'est l'origine. Maintenant, je parle des métaphores du gouvernement ou des comparaisons. Je ne sais pas si c'est des métaphores ou des comparaisons. soyons pas trop prétentieux. Eh bien, dans les textes sur le gouvernement, de toutes les époques, depuis l'Antiquité grecque, depuis Aristote, Platon, jusqu'à l'époque contemporaine, les métaphores du gouvernement ont varié, bien évidemment, elles varient aussi en fonction de l'état des techniques. On ne peut pas parler de la même chose. Ainsi, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que Cubernao, je ne sais pas si j'ai peut-être oublié de marquer là, Non, j'ai oublié une chose. Cubernao, c'est de là que vient le mot cybernétique. Cybernétique vient de Cubernao. J'ai oublié en faisant mon bon rapport, c'est vrai, je reviens bien. Cybernétique, c'est un mode de gouvernement des systèmes complexes, et notamment des systèmes informatiques et des systèmes d'ingénierie. La cybernétique, le mot cybernétique vient de même origine que le gouvernement. Alors, au fil de l'histoire de la pensée philosophique ou de la théorie politique, les termes pour parler de gouvernement ont été différents. Bon, bien sûr, évidemment, il y a toujours cette gouverner un navire, mais souvent, comme comparaison, on prend la gestion d'une famille ou la gestion d'un groupe familial, disons la gestion d'une grosse exploitation agricole, le rôle de le gouvernement domestique, en quelque sorte, de la domestique, avec la famille élargie, la domesticité, éventuellement les esclaves. C'est le modèle du gouvernement d'une grande propriété terrienne, où le chef de cette famille doit assurer à la fois la cohésion de la famille, les relations entre les membres, l'équilibre économique, le développement, la sécurité, etc. Une comparaison qui est très très fréquente, aussi bien à l'époque grecque qu'ensuite, bien sûr, au temps chrétien, c'est le gouvernement, c'est le pasteur qui s'occupe du troupeau. Bon, c'est une comparaison, comme vous voyez, qui, si on la pousse jusqu'au bout, est un peu gênante, puisque, en règle générale, les moutons, on les tond, on les mange. Quelqu'un qui se prendrait pour le pasteur de son peuple, s'il allait jusqu'au bout, on risquerait quand même. Mais enfin, c'est le bon pasteur qui prend soin et surtout qui protège son troupeau contre les prédateurs. C'est un élément sur lequel on reviendra tout à l'heure. C'est tardif, mais disons qu'au XIXe siècle, le gouvernement, et c'est à ce moment-là, c'est dans les années 1950 qu'on s'est mis à parler de cybernétique, mais dès le XIXe siècle, il y a eu une tendance, au moment de la seconde révolution industrielle, à partir des années 1850, lorsque les métiers de l'ingénieur prennent une place considérable dans l'existence sociale, dans l'économie, dans le fonctionnement des pays, l'idée que le gouvernement, ça peut être un gouvernement managérial, le gouvernement des ingénieurs, le gouvernement des techniciens, et ça va mener, encore une fois, au XXe siècle, à une idée qui est l'idée de la technocratie, c'est-à-dire ceux qui gouvernent sont des techniciens du gouvernement, ceux qui ont la science du gouvernement, et de préférer ceux qui ont la meilleure science du gouvernement, ce sont les ingénieurs qui ont la science des productions, de l'organisation de la production, des approvisionnements et en même temps de la distribution des produits. Et ça sera repris dans les années 1950 chez les premiers théoriciens de l'informatique et des systèmes complexes par la notion de cybernétique. Gouverner, c'est être capable de superviser et de faire fonctionner ensemble des montages très complexes de machines. Et puis, bien évidemment, il y a toujours une métaphore militaire dans le gouvernement. Gouverner, c'est comme commander une armée pour arriver à certaines fins, ce qui vaut pour les armées réelles, comme ça peut valoir éventuellement pour des armées spirituelles, par exemple le gouvernement des jésuites. Les jésuites qui se considèrent de manière militante comme des soldats de Jésus, les jésuites forment une armée spirituelle et le gouvernement de l'ordre des jésuites, le chef des jésuites, c'est le général des jésuites. Ils sont d'ailleurs en train de choisir un nouveau général. Métaphore du gouvernement, donc vous avez tout ça, c'est pas pour vous dire c'est confus, loin de là, c'est que tout simplement. Je dirais que tous ces aspects correspondent à des aspects différents du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut voir que dans les affaires humaines, il est rare que les choses soient claires et tranchées et que nos concepts ont des dimensions différentes. en des dimensions, c'est-à-dire des aspects différents qui varient selon les époques. Bien, certains aspects sont plus importants que d'autres. D'autres sont... Dans le cadre d'une société militaire, il est évident, dans une société militarisée, par exemple, il est évident que la comparaison du gouvernement au commandement militaire sera plus justifiée que dans le cadre d'une société qui est par exemple une société essentiellement de marchands. Hein, parce que là, il ne s'agit pas de conquérir les territoires, mais il s'agit de vendre des marchandises, d'établir des comptoirs, etc. Et ça ne se gouverne pas de la même manière. Donc il y a l'idée là, derrière que derrière les modes de gouvernement, il y a des dimensions complexes et différentes de l'activité humaine. Et que donc, chacune de ces métaphores rend compte d'un aspect. Alors parfois, je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, il est évident que gouverner les hommes, c'est là-dessus que je terminerai, gouverner les hommes, gouverner un pays, ça ne se fait pas de manière militaire. Bon, il faut recueillir l'adhésion, ou il faut trouver des mécanismes de motivation à l'obéissance différents. Mais, encore une fois, il y a eu des sociétés qui étaient des sociétés très militaires, vivant dans des contextes géographiques ou naturels difficiles, et où l'organisation du gouvernement est une organisation militaire. La pensée, pour prendre des exemples très contemporains, si vous prenez le cas d'un pays comme le Pakistan actuellement, le Pakistan... En gros, depuis les 20 ou 30 dernières années, c'est l'histoire d'un pays qui n'arrive ni à retomber dans le tribalisme complètement, auquel cas on aurait plutôt, je dirais, le modèle 2, diriger une famille ou un groupe familial, ni à avoir un fonctionnement démocratique, et donc qui est très souvent sous le commandement militaire, les pouvoirs militaires. Sont des modes d'organisation et de gouvernement des sociétés. Il y a une faute de mieux ou parce que les conditions sont de cette nature. Donc, garder en tête ces métaphores du gouvernement parce qu'à un moment ou un autre, elles constituent une des composantes du gouvernement. Alors, j'en ai maintenant, vous allez voir, je vous parle des moyens, je vous parle des fins, c'est une distinction assez habituelle qui ne vous surprendront pas. Mais quels sont les moyens du gouvernement ? C'est-à-dire, si le gouvernement consiste à faire à des gens certaines choses, à les faire aller quelque part, ou à leur faire réaliser certaines actions, ou accomplir certains hauts faits, etc., il faut des moyens pour obtenir l'obéissance. Gouverner, c'est obtenir l'obéissance des gens. Et quels sont les moyens du gouvernement ? Alors, vous avez, je les énumère rapidement, parce que c'est... On pourrait raffiner là-dessus. Hein. Certaines personnes apporteraient des nuances, mais je dirais qu'en gros, ce que je vous présente là, ça couvre l'ensemble. C'est les moyens du gouvernement, c'est la contrainte et la violence. La contrainte, c'est dire faites ça, sinon, la menace, hein. La menace, la contrainte sous menace, faites ceci, sinon, il vous arrivera cela. La violence pure et simple, il vous arrive cela, on vous tape sur la tête. L'autre système, l'autre moyen de gouvernement, c'est la séduction. J'avais écrit dans le premier temps le charme, et en fait, c'est pas uniquement une affaire de charme pour vedette, c'est simplement ce qu'on appelle aussi le charisme, c'est-à-dire un certain charme, une certaine aura, un certain envoûtement qui émane du gouvernant. Et qui fait qu'on le suit, plus ou moins aveuglément en fonction de son charisme. Le charisme, c'est le mot charme en grec, et il a un charisme, un don particulier qui fait que les gens adhèrent, le suivent. C'est le cas dans les sectes, par exemple, c'est le cas aussi des gens qui sont complètement fans d'une vedette et au point d'en perdre le sommeil, séduction et charisme. Ensuite, il y a intérêt et récompense. C'est un peu le contraire de contrainte et violence. C'est qu'on demande aux gens d'obéir pour obtenir telle et telle récompense et pour servir leurs intérêts. Ça, c'est une base extrêmement efficace de commandement. Faites faire aux gens des choses qui sont dans leur intérêt ou qui leur apportent telle ou telle récompense. C'est de l'eau courante, nous tous, hein, tous les jours. intérêt et récompense, ou menace de sanctions. Ensuite, il y a un autre moyen relativement peu pratiqué, parce qu'il n'est pas évident à pratiquer, c'est persuasion et raison, c'est-à-dire montrer aux gens qu'on a raison de leur demander ce qu'on leur demande, et que les fins qu'on leur propose, les moyens qu'on leur propose pour y arriver sont parfaitement justifiés et légitimes, et convaincre, c'est persuasion et raison. J'ai rajouté une rubrique qu'on rajoute peu souvent dans les moyens du gouvernement. Là, il faut être vraiment jungien pour faire ça. Une pensée très empiriste, c'est qu'une manière de gouverner les gens, c'est de prendre en compte le fait qu'ils n'aiment pas tellement changer et qu'ils suivent volontiers des routines. Donc, ce n'est pas la peine de les... On peut même faire changer les gens en tablant sur leurs routines et leurs habitudes. Le tout, c'est de ne pas les forcer trop évidemment et de tabler sur leur envie de ne pas trop changer, et de changer d'une manière tranquille. Alors, j'ai, comme c'est un PowerPoint, hein, de temps en temps, si je faisais un cours sur les preuves de l'existence de Dieu, j'aurais du mal à mettre des illustrations. Comme c'est une conférence sur le gouvernement, on peut donner des images. Je vais vous donner quelques images de chacun de ces moyens. Vous reconnaîtrez, alors, c'est contrainte et violence. Voilà. Ça, c'est une très bonne manière pour faire obéir les gens. Vous leur tapez dessus, à court degré. Ce que vous voulez, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le Grand Tribune en mai 2000. C'était en Indonésie. Hein, c'était des officiers de police indonésiens qui battaient un étudiant parce que les manifestants avaient refusé de reculer pendant une manifestation. Ils demandaient que le président Suharto, qui est en train de venir sinon même moi, soit mis en prison pour corruption. Donc comme on veut qu'ils obéissent, on leur tape dessus. Et en principe, quelquefois ils obéissent, quelquefois ils se révoltent. Hein, c'est une autre affaire. J'ai pris une première image comme ça, contraint. Alors séduction et charisme. il n'est pas bien bon, mais les Vénézuéliens, ils sont très contents. Hein. Ça c'est Chavez. Chavez, quand il c'est un peu comme Fidel Castro, c'est le charisme de Fidel Castro, maintenant c'est un peu passé. Chavez, il fait des émissions de télévision qui durent 10 heures. Hein, il parle à son peuple pendant 10 heures à la télé. Il a une émission de télé où il parle, et les gens sont contents. J'ai tout ça. C'est séduction et charisme. Il est évident que Chavez, je ne suis pas un partisan de Chavez, mais il est évident que ça, c'est pendant une intervention, un meeting. Il fait des discours de 3-4 heures. Hein, je veux dire. Ça, c'est une meilleure rubrique. Séduction et charisme, j'ai envie de vous mettre. J'aurais pu vous mettre Carole Bouquet défendant les sans-abri, ou Emmanuel Béard, ça aurait été séduction et charisme. C'est une manière de sensibiliser les gens et de leur faire, par exemple, de leur faire se préoccuper des sans-abri. C'est une forme d'exercice du pouvoir. Intérêt et récompense. Là, vous voyez les gens qui attendent bien sagement, c'est au Darfour. C'est un camp au Tchad, non, c'est un camp au Tchad, c'est les réfugiés qui attendent sagement une distribution de quelque chose. Donc, si vous voulez qu'ils se mettent en ordre, vous leur dites ben, chacun son tour, et puis vous aurez votre distribution de vivres. Vous avez des cas de distribution de vivres beaucoup plus désordonnées, chaotiques et même quelquefois très violentes. On peut voir souvent des photos comme ça. Et ça, c'est du bon exemple. Les gens s'assoient, ils font la queue en attendant que d'avoir leur affaire. Alors, persuasion et raison. Persuasion et raison, je ne sais pas si vous les avez vus, si vous ne l'avez pas vu, allez sur YouTube ou Dailymotion pour le voir. C'est pas un épisode qui a eu lieu, ce qui est drôle, hein. C'est vraiment drôle à voir, mais il faut voir la vidéo entière, ne hein, regardez pas. C'est au Chili, le 11 novembre dernier, à un sommet des chefs d'État américains, où il y avait Zapatero, le premier ministre espagnol, et puis derrière lui, en retrait, vous voyez, le roi d'Espagne, Juan Carlos. Or, il s'est trouvé la chose suivante. C'est Chavez, qu'on voit ici de dos, en bas. Chavez a commencé à tenir des propos extrêmement malveillants et surtout très déplacés sur l'ancien premier ministre espagnol qui était du Parti Populaire, c'est-à-dire qui était de droite, Aznar, en disant que c'était un fasciste. Il est évident que Zapatero, qui est socialiste, en tant qu'espagnol, ne pouvait pas accepter cette affaire. là, c'était un affront à la démocratie espagnole. Bon, Zapatero intervient, si vous connaissez l'espagnol et si vous écoutez la parole entière, Zapatero intervient avec beaucoup de dignité en disant qu'il ne peut pas accepter que quelqu'un qui avait été élu par le peuple espagnol soit insulté dans la sommet internationale, mais il le fait de manière extrêmement modérée, polie, en essayant de persuader Chavez. Chavez, qui n'a pas le micro à ce moment-là, parce que c'est, le micro est ouvert pour Zapatero, Chavez continue à parler, en disant à déblatérer contre Aznar, contre tout ça, etc. Et à un moment donné, on voit, donc Zapatero n'arrive pas à le persuader. Et à un moment, le roi sort de sa réserve, non pas comme un roi, non pas comme un personnage hautain, mais il lui dit, comme on dirait au bistrot, mais pourquoi tu l'as fait en toi? Pour qu'il nous décaille. Et il sort, il dit, arrête, ferme-la quand même, tu nous gonfles. C'est très peu monarchique ce qu'il lui dit. Pour qu'il nous décaille, et j'ai pour ça que j'ai mis ça sur persuasion et raison. Et sur le moment, effectivement, Chavez, il n'en est pas revenu. Le roi d'Espagne lui dit, ferme-la, tu nous gonfles. Alors, ensuite, ça a été monté en scène, ça a donné lieu, comme le coup de boule de Zidane, à du rap. C'est très dansant. Beaucoup de réveillons espagnols se sont passés sur le rite de Porqué Noté Callas, mais je vous l'ai mis comme persuasion et raison. Et puis, parce que c'était l'argumentation de Zapatero, qui est une argumentation très raisonnable. Si vous voulez, n'importe qui l'écoutait, qui n'aurait pas été comme Chavez, justement, mais bon, c'est vrai que j'ai fait un impair, je ne peux pas insulter la démocratie espagnole comme ça, même aussi à travers un Premier ministre que je ne peux pas supporter. Et alors, sur les routines et habitudes, ben voilà, c'est les gens pendant des grèves, c'est vrai que les gens, au lieu de tout mettre à sac, de tout casser, ben, ils attendent sagement le métro qui viendra dans 55 minutes. Ça, c'est routine et habitude. Nous supportons énormément de choses et nous conformons aux choses, à l'ordre des choses. Nous acceptons à les gouverner très souvent par routine ou par habitude parce qu'on n'a pas pensé, à transgresser. On suit la règle et on prend ce comme ça. Alors, quelles sont les fins du gouvernement maintenant? Alors, je dirais que dans le sens le plus général, le sens de ce que j'appelle formel, c'est faire aller quelqu'un, parce que, y compris soi, parce que le gouvernement de soi, c'est une notion qui existe, faire aller quelqu'un ou un groupe d'hommes vers quelque chose. C'est ça, se gouverner, c'est soit par exemple, quand on se dit il faut que je me calme, par exemple, le gouvernement de soi, ou bien il me faut du courage, c'est une forme de gouvernement de soi. Mais enfin, en règle générale, on emploie plutôt le terme de gouvernement pour les groupes d'hommes réunis dans une communauté politique qui peuvent être de différentes sortes. Il y a des communautés politiques, il y en a de toutes sortes, il y a des tribus, gouverner une tribu, c'est d'ailleurs le problème c'est ce que réussissait assez bien Saddam Hussein en Irak, avec beaucoup de contraintes et de violences, mais il gouvernait un pays fondamentalement éclaté en tribus. Il ne gouvernait pas des individus citoyens, il gouvernait des tribus. Or, quand les Américains sont arrivés, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir instaurer la démocratie parmi des citoyens. Simplement, ils se sont retrouvés avec des tribus, c'est-à-dire les gens raisonnent d'abord mon frère, mon proche, les gens de mon village, les gens qui sont liés à ma famille, plutôt qu'en termes de mon prochain, un alter ego, etc. Donc il peut y avoir des tribus, il peut y avoir des sujets, les sujets d'un roi, les sujets qui sont soumis à une autorité, il peut y avoir des citoyens. Les citoyens, c'est plutôt ce que nous avons l'habitude de connaître dans nos pays démocratiques. Et il peut y avoir des administrés, parce qu'il y a des gens qui sont administrés. Pourquoi j'ai rajouté des administrés? Parce que, par exemple, la colonisation a souvent consisté à gouverner des gens qui n'étaient ni des sujets, ni des citoyens, mais des administrés. D'ailleurs, c'était l'administration indigène, que ce fut l'administration de l'Inde par les Anglais, ou que ce fut l'administration française de l'Afrique occidentale, ou que ce fut l'administration française de l'Algérie. C'est des administrés qui sont ni des sujets, ni des citoyens, etc. Bon, sens général, fin du gouvernement. Pour quelle fin? Alors, il y a plusieurs plusieurs possibilités pour qu'elle, enfin, pour réaliser un projet, pour réaliser un projet, enfin, du gouvernement, par exemple, aller conquérir l'Amérique, hein, aller coloniser l'Amérique, par exemple, pour les Espagnols du XVIe siècle, pour réaliser un grand barrage, de réaliser les pyramides, réaliser un barrage, réaliser des grands projets. C'est un des aspects du gouvernement qui est intéressant parce que ça nuance l'idée que c'est uniquement pour le bien des gens. On peut dire que, très souvent, on gouverne les gens pour les faire réaliser un projet qui, à terme, sera pour eux positif, on l'espère, ou ils ne s'en rendront même pas compte, mais qui, sur le moment, se traduit tout simplement par réunir des forces, réunir des efforts, réunir des moyens et réaliser ce projet. Quand vous voyez les pyramides incas, quand vous voyez les pyramides égyptiennes, le gouvernement, une des fins du gouvernement, c'était la réalisation de ces grands ouvrages et la réalisation de ces projets. Et puis, évidemment, c'est pour réaliser le bien. Alors, le bien, quel bien ? Je dirais le bien de la communauté, mais disons que d'une certaine manière, on gouverne toujours pour le bien de la communauté. C'est manquant, parce que le bien de la communauté, qu'est-ce que c'est ? C'est très général. Qu'est-ce que c'est le bien de la communauté ? Et donc, on est forcément obligé de traduire ce bien de la communauté, de le monnayer, en quelque sorte, de l'expliciter en bien particulier. C'est bien divers, et c'est là où j'entends. Alors, les biens politiques, je parle là du groupe, hein, je ne parle pas des individus, de nous-mêmes. Le bien politique, c'est la sécurité du groupe, la conservation de soi, la sécurité du groupe. Pour nous, c'est moins évident, pour nous surtout en Europe, pour vous encore plus, les gens jeunes qui n'ont jamais connu aucun conflit intra-européen, mais la sécurité peut être un impératif très fort pour le groupe politique, et pas si loin de nous, en tout cas au moins dans le temps. C'est vrai que les attentats du 11 septembre 2001 ont fait redécouvrir aux États-Unis le caractère vital de la sécurité. Et on ne comprend pas grand-chose aux États-Unis et aux comportements assez aberrants qu'ils peuvent avoir actuellement si on ne voit pas qu'ils se considèrent comme en guerre, parce qu'ils ont été attaqués, un peu la même chose que vous ne pouvez pas faire avant, ayant été attaqués dans un pays qui a en fait rarement été attaqué sur son territoire. Donc, mais pour beaucoup de peuples, et historiquement, la première valeur, c'est la sécurité. C'est la sécurité extérieure, contre l'ennemi, contre le rival, contre le voisin. Première valeur, c'est la sécurité, la conservation de soi. Ensuite, une fois que la sécurité est atteinte, il peut y avoir, on peut, je dirais, améliorer les choses. Et effectivement, ce qu'on recherchera comme bien politique, c'est un bon état. Un état de la communauté qui soit de qualité. Donc ça sera une population en bonne santé, une population abondante, puis ensuite une population vivant correctement, puis vivant confortablement, et puis si possible aussi une population qui soit heureuse. Tous ces états et les indicateurs qui leur correspondent, tous ces états sont très variables. Hein, je veux dire, la santé, par exemple, pour un homme, de l'époque de Montaigne, c'est, disons, d'atteindre en gros la quarantaine. Atteindre la quarantaine parce que, compte tenu des conditions d'hygiène, de l'absence totale de médecine, si vous lisez les essais de Montaigne, vous verrez ce qu'il dit sur les médecins, il est évident que ceux qui dépassent les 35-40 ans sont des rescapés et vont jouir, disons, ont des chances de vivre un peu plus vieux que les autres. Bon, nos critères de la santé, aujourd'hui, quand quelqu'un meurt à 80 ans, on déplore qu'il soit mort jeune et qu'il n'ait pas eu le temps de jouir complètement de la vie. Bon, donc, encore une fois, ce sont des critères qui peuvent varier considérablement. De la même manière, le confort de la vie peut varier considérablement aussi. Enfin, je ne m'attarde pas là-dessus. Quant au bonheur, alors je dirais que c'est une des dimensions qui est le plus invoquée et qui est la moins mesurable. Il y a beaucoup de travaux. Pour ceux d'entre vous qui font un jour des sciences économiques, je vous signalerai qu'un des grands secteurs de développement aujourd'hui de la science économique, c'est l'économie du bonheur, c'est-à-dire essayer de mener des investigations sur les caractères objectifs du bonheur, les vécus subjectifs du bonheur, et puis des indicateurs mesurables du bonheur. Dans le numéro du Monde de dimanche lundi, dans l'éditorial d'Éric Le Boucher, malheureusement son petit diagramme n'était pas assez légendé, mais on voyait le diagramme de l'élévation du PIB français depuis 1973, qui était comme ça, en gros, et on voyait le diagramme du bonheur français, qui était absolument étalé. C'est-à-dire que l'élévation du PIB n'avait rien changé au sentiment du bonheur des Français. Et il y a des études, je dirais qu'il y a des études américaines qui valent ce qu'elles valent, mais qui semblent bien indiquer qu'on est heureux surtout quand les voisins sont malheureux. Donc plus le niveau d'une société augmente de manière globale, moins ça va d'une certaine manière, et pour ça que les gens peuvent avoir un haut niveau de bonheur et considérer qu'ils sont extrêmement malheureux parce qu'ils n'ont pas plus malheureux qu'eux à côté de leur part. Mais ça, je dis, c'est un sujet qui est passionnant aujourd'hui et où il y a beaucoup d'études, parce qu'effectivement la science économique jusqu'ici c'était justement une science portant sur l'argent, la production et l'argent. Puis on s'aperçoit que le PIB a augmenté, les gens ne sont pas plus contents. Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut faire un bon état. Et puis, ben, les penseurs, les grands penseurs, les penseurs de grande envergure, rajoutent toujours, et ils ont raison, qu'un des biens politiques, c'est une vie humaine supérieure. Vivre en société, c'est non seulement vivre bien, mais vivre encore mieux du fait qu'on est en société. C'est un thème qu'on trouve chez Aristote, c'est un thème qu'on trouve chez saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que, en fait, il ne suffit pas d'avoir la sécurité, la santé et le confort pour s'accomplir en tant qu'être humain. Et toute une tradition très très puissante de la pensée philosophique occidentale insiste sur le fait que la communauté politique doit nous permettre de mener une vie humaine supérieure, parce qu'il ne suffit pas de se conserver pour être humain, il ne suffit pas d'être heureux et confortable pour être humain, il faut aussi mener une vie digne de l'humanité, une vie épanouie et une vie qui vous épanouit. Voilà pour les biens politiques. Donc j'avance. Alors, qui gouverne maintenant? Ce qu'il faut voir là, c'est là où c'est intéressant de faire de la science politique plus que de la philosophie, c'est qu'il faut voir que qui gouverne, ben, c'est ce qui reste. Qu'est-ce que ça change au cours de l'histoire humaine, de la sociologie du pouvoir politique? Il y a le père, la patriarchie, et une grande partie de la pensée politique conservatrice consiste à dire que les rois descendent d'Adam. Hein, les rois sont des pères qui ont hérité du pouvoir paternel de Adam. Le premier traité du gouvernement civil de Locke, qu'on ne lit jamais, est consacré à la réfutation d'un livre de Filmer à l'époque, de son époque, qui était une apologie, une justification de la royauté à partir du pouvoir patriarcal et du pouvoir d'Adam. Bon, qui gouverne, ça peut être le plus fort, le bandit le plus fort, le tyran, mais qui peut avoir un avantage, c'est comme c'est le plus fort, il vous protège aussi. Donc c'est le pouvoir du parrain de la mafia, hein, c'est-à-dire le chef de gouvernement comme le parrain de la mafia, c'est-à-dire qu'il vous exploite, il vous tyrannise, mais en même temps il vous assure la protection. Bon, le plus ancien, ça c'est le rôle de la tradition, les plus sages, bon, cela dit, les plus anciens, ça dépend de quel âge, hein, ça dépend de quelle perspective, de principe. L'héritier de ceux qui ont gouverné, monarchie héréditaire, les meilleurs, en général ils se définissent les meilleurs, c'est l'oligarchie, et puis la plupart ou tous, La plupart ont tous, j'ai mis la plupart ont tous parce que, encore une fois, la démocratie généralisée, d'une part, elle n'existe pas complètement encore, et que surtout, elle a mis du temps à s'imposer. Jusqu'en 1946, en France, les femmes ne votaient pas, donc les femmes n'étaient pas dans les citoyennes. Jusque dans les années 1830, ne votaient que les gens qui avaient un certain niveau d'études et qui avaient un certain revenu, et que ceux qui n'avaient pas ces revenus, ceux qui n'avaient pas de domicile, ceux qui n'avaient pas d'éducation, ceux qui étaient illettrés, etc., ne pouvaient pas voter. C'est-à-dire qu'il y a eu une extension progressive du suffrage universel. C'est des questions que vous pourrez poser si vous voulez, mais cette extension progressive du suffrage universel, disons, cette limitation initiale se comprenait. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée que pour prendre des décisions politiques, il faut avoir une certaine éducation et surtout ne dépendre que de soi pour ses biens. Ne pas dépendre d'autrui, ne pas être dépendant d'autrui qui achèterait votre vote. D'où l'idée que n'était citoyen que les gens ayant un certain niveau d'éducation et qui avaient un certain niveau de revenus. Ça, c'est pour qui gouverne. Alors, comment on les choisit? Mais ça, encore une fois, pour que vous pensiez à l'éventail des choses, que je vais conclure bientôt sur toute une autre perspective, ils peuvent être choisis par la tradition, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait comme ça. Donc, les gouvernants sont choisis parce qu'on a toujours fait comme ça. L'Angleterre reste à bien des égards dans cette lignée-là. L'Angleterre garde une très forte tradition. Au niveau, par exemple, du choix des souverains, des principes constitutionnels, on a toujours fait comme ça, par héritage, désignation divine, l'onction divine, le fait que Dieu a reconnu le chef de guerre, c'est encore le cas où le roi, c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines formes de théocratie. La théocratie chiite en Iran fait une place en partie à l'élection, mais une place aussi à la désignation au sein des autorités ecclésiastiques du chef spirituel de l'Iran. Et puis par désignation, et là on entre dans les problèmes d'élection, comment on élit, les types de scrutin, ou éventuellement le tirage au sort. Dans la démocratie athénienne, énormément de fonctions, sauf les fonctions militaires peut-être, étaient tirées au sort, compte tenu du fait que, comme disait Aristote, dans une démocratie, on est tour à tour gouvernant et gouverné. Et ce qui caractérise la démocratie pour Aristote, c'est que celui qui commande peut être commandé à son tour, et donc il y a une sorte de rotation des responsabilités qui fait qu'on tire au sort les... La plupart des charges, on tire au sort les juges, on tire au sort les magistrats, on tire au sort même le chef de l'Assemblée, on renouvelle quasiment tous les jours. On peut avoir une sorte de désignation avec des modes de renouvellement par le hasard. Alors, où... J'ai fait le tour des orthographes, de la mentalité pour l'heure, excusez-moi, je suis allé trop vite. Je vais maintenant basculer pour finir. Je vous ai présenté en fait l'éventail de tout. J'ai peut-être oublié les choses, mais l'éventail de tout. Maintenant, je vais basculer sur les époques plus récentes et sur un type d'approche un peu plus particulier. Je vais vous parler un petit peu de quelles sont les formes aujourd'hui de gouvernement qui assurent l'obéissance des sujets ou des citoyens de manière plus fine et plus subtile que la simple imposition d'un pouvoir. Alors, ce que je vous dis est assez inspiré du philosophe Michel Foucault, qui est mort en 1984. Ce que nous dit Foucault, c'est que jusqu'à ce qu'il appelle la nouvelle gouvernementalité, au fond, il y a eu un triangle pouvoir-droit-vérité. C'est-à-dire, le pouvoir est encadré par des règles de droit, certaines de ces règles de droit pouvant être extrêmement autoritaires, hein, que bien, peu importe, et que du coup ça détermine un certain type de discours de la vérité, un type de discours de la vérité concernant la validité du pouvoir et la légitimation par le droit. Mais ce que Foucault a remarqué dans ses études à partir des années 1970, ce qu'il a remarqué, c'est que, au fond, les choses se passent dans les sociétés contemporaines, les choses se passent de manière beaucoup plus subtile. Il y a ce qu'il appelle une capillarité du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas quelque chose d'en haut qui s'applique d'en haut à travers des sanctions, des intérêts, de la persuasion, du charisme, mais que les mécanismes sont beaucoup plus subtils, c'est-à-dire que le pouvoir est un peu réparti partout, et que d'une certaine manière, nous lui obéissons sans le voir, et je dirais avec notre consentement. C'est-à-dire qu'il y a une réticulation du pouvoir, et des réseaux de détermination, et une capillarité. Et il nous dit, dans cette œuvre, qu'il nous faut nous passer d'interrogation sur la souveraineté, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir dans le gouvernement, à une interrogation sur la manière dont les sujets s'assujettissent, sur les sujets deviennent des sujets obéissants, en quelque sorte. Comment ils se soumettent au pouvoir, je dirais, de leur plein gré, et non pas uniquement par paresse ou par routine, ou par sens de l'intérêt, ou par crainte de la violence. Pour moi, ils s'assujettissent eux-mêmes de leur place. Alors, je vous donne une citation qui est dans son histoire de la sexualité, qui a lieu en 1967. Ces nouveaux procédés de pouvoir fonctionnent non pas au droit, mais à la technique, au rôle de la technique, non pas à la loi, mais à la normalisation, à la norme, non pas au châtiment, mais au contrôle. Et il s'exerce à des niveaux et dans des formes qui débordent l'état, etc. Là, je crois qu'une phrase comme ça, du coup, donc, ce qui est important, c'est la partie gauche qu'on abandonne et puis la partie droite qui est contemporaine. Dans la partie gauche, vous avez le droit, la loi, le châtiment. Et dans la partie droite, contemporaine, vous avez désormais la technique, la norme et le contrôle. La technique, la norme et le contrôle. Sont des analyses qui sont extrêmement intéressantes parce que le temps ayant passé, puisqu'on est maintenant plus de 30 ans après ces premières analyses, les choses sont allées encore plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est la technique qui assure une grande partie de notre dépendance par rapport au pouvoir, ce sont les normes qui nous encadrent. Je dirais, au détriment des lois, il y a beaucoup de lois, mais en fait les lois sont plutôt l'expression de normes techniques, et il y a peu de châtiments, mais il y a énormément de contrôle a priori, contrôle a posteriori, régulation des actions par une société. Foucault avait écrit un livre qui s'appelait Surveiller et punir, et là, au lieu de punir, on surveille. Au lieu d'obliger par le droit, on oblige par la technique, et au lieu de forcer par la loi, on encadre dans des normes. Je donne un exemple d'encadrement par les normes. Plusieurs exemples d'encadrement par les normes aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais en Bretagne pendant le week-end et j'ai discuté avec des exploitants agricoles. Et aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation de l'agriculture européenne, la politique européenne, donc de la régulation de Bruxelles, puisque c'est de Bruxelles que viennent tous les mots, dit-on. Un champ, par exemple, qui est mis en jachère. A mis en jachère dans le cadre de la politique agricole commune, c'est-à-dire dans le cadre de ce que l'on considère comme étant une situation de surproduction, par exemple de lait. Donc on va mettre un champ en jachère au lieu d'en faire un pâturage. Eh bien, le paysan qui a un champ en jachère va recevoir une indemnité pour une indemnité de jachère pour l'année. Mais la surveillance, au sens de Foucault, elle se fait par le satellite Spot, qui fait des cartographies, un peu comme sur Google Earth, qui fait par cartographie, qui regarde l'état de tous les champs européens. Et le paysan qui a un champ en jachère a le droit, par exemple, de le faucher. Il a le droit de le faucher, mais il doit laisser l'herbe. C'est-à-dire qu'il doit laisser l'herbe pour, qui va pourrir en titre d'engrais, donc ça sera la jachère. Si jamais il récupère l'herbe, ce n'est plus un champ en jachère, il va perdre sa subvention et éventuellement il va être poursuivi pour fausse déclaration. Et tout ça avec une surveillance par satellite sur la norme. La norme, c'est combien de terres doivent être mises en jachère cette année en Europe. La norme, la technique, c'est le satellite, vous voyez bien, la technique, et le châtiment, non, mais le contrôle, oui. Vous voyez, donc c'est une très bonne illustration, extrêmement simple, qu'on a sous la main de cette nouvelle gouvernementalité. Par exemple, imaginez que vous vouliez vous faire aussi, comment c'est passé en France, vous faites construire une piscine dans votre maison, aujourd'hui vous êtes obligé par la norme, d'avoir un dispositif de couverture de cette piscine ou de délimitation par une clôture de cette piscine de manière à éviter les noyades d'enfants. Et si vous ne voulez pas, en disant je m'en fous pour l'enfance moi par exemple, il sera encore plus content si c'est ceux du voisin, etc. Vous n'aurez pas un constructeur qui prendra la responsabilité de construire votre piscine. C'est-à-dire que la norme s'impose à lui. C'est chez lui qu'est la norme. Donc vous pouvez demander une piscine plus ou moins grande, mais en tout cas, vous ne pouvez pas l'avoir comme vous la voudriez. Hein, si esthétiquement, vous trouvez que votre piscine, ça serait mieux si elle n'avait pas de clôture, ça serait mieux si elle n'avait pas de volet roulant, c'est pas votre problème, votre liberté individuelle, elle n'existe pas. Vous êtes encadré au nom de la sécurité, au nom du bien-être, au nom de la bonne santé des générations futures, vous êtes encadré par la norme et la surveillance. Alors, Foucault a introduit une notion qui est aujourd'hui, qui n'est plus à lui, en 1974, c'est celle de biopolitique. Alors, au fond, aujourd'hui, on n'est plus tellement dans la politique, on est dans la biopolitique. Je vous lis la citation. Le contrôle de la société sur les individus ne s'effectue pas seulement par la conscience, la persuasion, la conscience, ou par l'idéologie, le charme, la séduction, etc., ou l'obligation, mais aussi dans le corps et avec le corps. Pour la société capitaliste, c'est le biopolitique qui a importé avant tout la biologique, le somatique, le corporel. Le corps est une réalité biopolitique, la médecine est une stratégie biopolitique. Donc, en fait, ce que Foucault a étudié sur le cas à partir du 19e siècle, c'est comment la politique est petit à petit devenue une politique des corps et une politique surtout des populations. Donc, j'ai énuméré là un certain nombre de choses. Vous allez très bien tout de suite comprendre, même si le terme vous est inconnu, c'est le pouvoir moderne contrôle les gouvernements. Gouverne les populations, il les discipline, les contrôle, les médicalise, favorise leur croissance et leur bien-être. Comment ? Eh bien, le dressage des corps, la gymnastique, les manières de se conduire. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas forcément l'État qui est en charge du dressage des corps. Vos magazines féminins, les magazines de santé, le club med, tout ça, ça vous définit, ça vous dresse les corps. Les marchands de produits de beauté, c'est un dressage des corps. L'offre de chirurgie esthétique, dressage des corps aussi. Dressage des corps. Et puis, la biopolitique proprement dite. Alors là, vous tombez sur des choses que vous connaissez par cœur, mais que vous n'oubliez pas comme ça. Les politiques démographiques, avoir des enfants, encourager la naissance, la régulation des naissances, les contrôles de la santé. Au 19e siècle, ça a commencé par la mise en place des dispensaires, des centres d'hygiène, les sanatoriums, la mise en place de tout un appareil pour garantir la santé des populations et l'améliorer. Les politiques de durée de la vie, les politiques de retraite, les politiques d'aide à la vieillesse, de longévité, et puis sécurité sociale. Donc, Foucault s'intéressait beaucoup avant de mourir à la sécurité sociale, comme vraiment phénomène central de l'organisation du pouvoir. La sécurité sociale, l'aide sociale, l'assistance sociale, l'impôt, la réglementation de l'hygiène, la réglementation de l'urbanisme, toutes ces normes qui assurent la santé des populations. Alors ça remonte à assez loin. C'est-à-dire que les premières politiques de population, elles ont dépendu beaucoup de la qualité des, je dirais aussi de la technique. Elles commencent au 18. Il en faudra toujours. Le point de vue de l'anarchiste, ni Dieu ni maître, je suis unique et je reste unique, c'est bien joli, mais c'est difficile à promouvoir quand on est assez nombreux. Avenir du gouvernement, mais je serai conditionné par, je dirais, un certain nombre de facteurs qui sont ceux auxquels nous sommes condamnés à vivre. C'est-à-dire des sociétés complexes, et pas des sociétés où il y a des paysans, des guerriers et des prêtres. C'est des sociétés où il y a des métiers très différents, des fonctions très différentes, des âges très différents. Hein, pensez à la différence qu'il y a dans une société où il y avait des enfants, des adultes et puis des vieillards. Hein, des enfants, des adultes, des vieillards. Au XVIIe siècle, à 12 ans, on est adulte. À 12 ans, on est adulte, on n'est plus enfant. On est rescapé de la mortalité infantile. Souvent, les proches sont morts. Beaucoup de mères meurent en couche. Les hommes durent pas longtemps. Un enfant doit pouvoir assurer sa vie d'adulte à partir de 12-14 ans. Il n'y a pas d'ado. L'adolescence est une invention récente. Il n'y a pas d'adolescent. Bon, vous avez des enfants. Bon, ça c'est facile. Vous avez des adultes. Et puis, vous n'avez pas Dieu. Très peu de vieux parce qu'on meurt vite, et les quelques vieux qu'il y a, ils sont honorés, etc., mais il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas vraiment beaucoup à se préoccuper des vieux. Hein. Ben, là, on n'a pas à prévoir un plan de lutte contre l'Alzheimer. Hein. C'est pas le problème d'Alzheimer, que tout le monde meurt avant de risquer d'avoir quoi que ce soit de ça. Bon, on est dans des sociétés qui sont complexes, premièrement, et complexes sous beaucoup, beaucoup d'égards. Hein. Complexe technologiquement, complexe en termes de classage. Je veux dire, regardez quand même la complexité qu'introduit aujourd'hui le fait qu'on ait des vieux des retraités, des vieux de 65 ans, qu'on ait des vieux, ce qu'on appelle maintenant le quatrième âge, des vieux de 80 ans, troisième âge, 65 ans. Les seniors, maintenant ils appellent les seniors. Hein. Ça commence à me préoccuper, c'est ça. J'ai même une carte senior. Donc vous avez des seniors, on ne dit plus le troisième âge. Vous avez du quatrième âge, c'est-à-dire des gens qui ont entre 80 et 90 ans. Et puis vous avez des très très vieux. Et vous allez en avoir de plus en plus. Vous serez, je finirai, très très vieux. Hein. Vous serez tous centenaires. Hein. Statistiquement, vous serez presque tous centenaires. Hein. Mais vous serez dans un très très mauvais état. Donc vous serez des ultra vieux. Hein. Pensez au problème que ça pose à une société de gérer tout ça. Hein. Parce que c'est plus avoir à gérer que du troisième âge. Vous avez à gérer des catégories de gens âgés extrêmement différentes. C'est ça que j'appelle société complète. Société de communication, vous le savez aussi bien que moi, hein, vous n'avez qu'à ouvrir Internet, vous n'avez qu'à ouvrir votre téléphone portable, on est dans les sociétés de communication. On est dans les sociétés systémiques aussi, ça c'est-à-dire les sociétés où les éléments, les réactions à l'intérieur de la société sont immédiatement reprises en charge dans la société pour le pilotage social. On est dans les sociétés évidemment mondialisées, difficile de dire je reste strictement dans mon coin, et en plus dans les sociétés technologiques, alors quand je dis technologiques, c'est pas seulement des téléphones portables, des sociétés technologiques aussi, biotechnologiques, des sociétés génétiques, des sociétés d'engineering biologique, des sociétés hyper technologiques, et qui le seront de plus en plus. Donc, je dirais que le gouvernement aura à s'occuper de tous ces aspects-là. Encore une fois, je crois que sous la notion de biopolitique, il y a quelque chose d'extraordinairement riche pour penser ces sociétés-là, mais que je dirais que les concepts du gouvernement vont singulièrement se compliquer encore. Ça sera de plus en plus difficile, il sera surtout de plus en plus compliqué de gouverner. De plus en plus compliqué de gouverner, parce que vous avez toutes ces dimensions-là qui recomplexifient indéfiniment le problème. Voilà, j'en ai terminé. C'est fini. Maintenant, j'ai suivi à vos questions, si vous voulez.